Alors, si vous avez oublié l'ovomaltime de mercredi, ça veut dire le culte de la milieu de la semaine, j'ai commencé à parler d'un petit sujet, enfin d'un petit sujet. Alors, bibliquement, ce n'est pas une doctrine. Et pourtant, ce mot-là, il apparaît 5800 et quelques fois. Je ne sais plus exactement. C'est le mot garder. Le mot garder. Je vais donner un exemple comme ça, je vous mets déjà dans le contexte. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Le mot garder, c'est garder les bornes. Ne déplace pas les bornes. Garde la correction de ton enfant. Pour nous aujourd'hui, c'est garde ton argent, garde ton job, garde ta famille, garde ta maison, garde ton garde-manger. On l'appelle même le garde-manger. En fait, ce mot garder, on l'utilise tout le temps. Et pourtant, souvent, nous sommes incapables de garder les choses. Par exemple, certains ils vont se dire, voilà, je vais garder mon argent au cas où quelqu'un vient le vol, t'as pas pu le garder, parce que nous sommes faillibles. Quelqu'un qui peut dire, je vais garder une relation, sauf que la relation, ça va dans un sens comme dans de l'autre. Je vais garder mon job par mes propres forces, le boss il dit, faillite, tu peux pas le garder. Je vais garder peut-être des bonnes relations avec des amis, avec des copains, comme on a grandi. Pourtant, une circonstance arrive, boum, on ne peut pas garder. C'est terrible. Je commence bien, moi, le message. C'est le truc pour déprimer. Hein. En fait, tout ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas le garder. Parce qu'il y a certaines choses, ça dépend de nous, il est vrai. Mais d'autres choses dépendent des circonstances ou des autres. Et le mot dans la Bible, donc, c'est garder la parole, garder l'église, garder votre cœur, garder la correction, garder la lumière que vous êtes, garder le sel. Je vais dire plusieurs définitions du mot garder. Le mot garder, en hébreu, c'est natsar. Conserver, gardien, préserver, protéger, garantir, veiller, observer, retenir, etc., etc. C'est un mot qui est hyper grand et hyper large. Et je me dis la chose suivante, je vous donne déjà la conclusion, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi on peut pas garder les choses, selon vous? Je vous pose une question. Pourquoi on peut pas garder les choses? Parce que souvent, nous n'avons pas de vision. Souvent, nous avons perdu l'objectif. Prenons un exemple. Pourquoi je veux garder ma famille? Si je n'ai pas une vision ou un objectif, je vais me perdre. Vous savez, un peu comme dans le désert, si je marche sans avoir une vision, je vais tourner en rond, en rond et en rond. Prenons un exemple plus simple. Pourquoi je veux garder mon job? Si j'oublie que mon job, naturellement, je parle même pas spirituellement, mon job c'est pour gagner l'argent, pour que je vis, pour que je fasse vivre ma famille. Si je perds cette objection-là, peut-être qu'il y a une circonstance difficile qui arrive dans la vie, et tu vas dire quoi? Tu poses ta démission. Tu n'as pas gardé le job. Et ça, on peut le mettre dans tous les domaines de notre vie. Mais j'aimerais maintenant commencer le message. Aujourd'hui, c'est possible de garder les choses parce que Dieu nous garde. Sans Dieu, Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gardez quoi que ce soit, vous ne pouvez même pas le faire. » Et j'aime ça parce que Dieu commence fort. Il a fait le jardin d'Éden, il a fait l'homme et la femme. Et Genèse chapitre 2, verset 15, j'aime cette expression. L'Éternel cultiva et gardait l'homme et la femme. J'aime ça. On peut même pas se garder nous-mêmes, tellement nous sommes pas du tout en contrôle. Mais Dieu peut nous garder tout simplement déjà, un, parce qu'il est souverain. Deux, il n'est pas surpris par ce que nous faisons. Oh là là, Betty cette semaine, elle m'a posé une question d'incrédulité. Ah oui, Seigneur, qu'est-ce que je fais sur ce pont? Dieu n'est pas surpris par cela. Mais l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est nous garder parce qu'il nous aime. Pourquoi? Et même lorsque nous avons péché, Dieu a donné une solution parce qu'il veut nous cultiver. Il nous veut garder pour lui. Oui, tu t'es éloigné. Oui, tu as été dans le royaume des ténèbres. Je vais payer le prix parce que je veux te garder près de moi. Jean chapitre 17, je te prie Père que là où ils sont, là où je suis avec toi, je veux que eux aussi y soient. Parce que je les aime et parce que je veux les garder. Prenons quelques versets. Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui garde ou qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. C'est la même racine, hein, Nasta, qui conserve un amour pour nous. Psaume 40, verset 11. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont. Ah, c'est bon ça. Romains chapitre 8, 38-39. Rien ne peut nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes conservés, nous sommes préservés dans son amour. Lorsqu'on garde, on veut garder certaines choses, pensons d'abord que c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous garde. Vous vous rappelez la prière, notre Père qui est aux cieux, ne nous soumets pas à la tentation, mais garde-nous, préserve-nous du mal. C'est encore lui qui le fait. Seigneur, lorsque mon cœur est découragé, lorsque j'ai plus de force naturellement, je sais que tu vas me préserver. De Corinthiens 12, 10, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que c'est le Seigneur qui me garde. Vous vous rappelez dans l'île des Actes, quand l'apôtre Paul, il échoue avec un bateau, et le Seigneur l'a préservé. Mon Dieu en qui je crois, en qui j'ai placé ma foi, a dit qu'il me le gardera. Et non seulement moi, mais vous aussi, à cause de qui il est. Donc, si on veut garder certaines choses, si on veut garder les choses, premièrement, il ne faut pas oublier, c'est lui qui le fait. Seigneur, comment je peux préserver ou garder ma famille? Je reçois de toi, je le vis et je le donne. Seigneur, c'est quoi mon objectif pour mon travail? Est-ce que c'est juste gagner de l'argent et puis vivre sur cette terre, que la vie elle est comme une vapeur, comme l'apôtre Jacques nous dit? Non, l'objectif c'est que même le travail que je t'ai donné, je veux garder ton cœur par-dessus tout, car c'est de là qu'il vient les sources de la vie. L'objectif à travers le travail, la famille, les relations, pardon Robert, je parle trop vite, hein. À travers tout ce que Dieu nous donne, c'est le glorifier. Lorsque nous oublions l'objectif, la course elle s'arrête net. Lorsque Dieu nous dit dans la loi mosaïque de Moïse, ne déplacez pas les bornes, préservez, gardez les bornes. Pourquoi? Pour le glorifier lui. Parce que lorsqu'on glorifie le Seigneur, on va servir aussi l'autre. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Donc, premièrement, c'est la première des choses qu'il faut jamais oublier. Tout ce que nous faisons sur cette terre, comme Betty dit, j'ai un an de plus, c'est parce que le Seigneur m'a gardé. Si le Seigneur ne me garde pas, je meurs aussi vite que ça. J'ai un collègue du boulot, il a perdu un ami. Il a fait une sieste et il ne s'est jamais réveillé. Ça arrive. Mais nous sommes là parce que le Seigneur nous a gardés. Pas juste nous a gardés, mais il nous garde. Tu traverses des opérations comme Helmut a traversé les derniers mois, le Seigneur l'a gardé. Nous sommes là, je prends par exemple Alfredo et Silène et les enfants qui sont partis en Espagne, où il faisait très froid ou très chaud. Le Seigneur les a gardés sur la route. Et le Seigneur nous garde. Ça, c'est la première des choses qu'il ne faut pas oublier dans notre vie. Des fois, on se dit, oh là là, ça fait 20 ans que je suis chrétien, Seigneur, c'est génial. C'est pas la bonne phrase. Seigneur, je réalise seulement que depuis 20 ans, tu m'as gardé. Je réalise, Seigneur, que c'est toi qui le fais. Marine, le Seigneur t'a gardé pendant ton job avec l'aéroport. Et il te gardera encore aujourd'hui. Le Seigneur nous garde. C'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais parler, je parlais juste de trois points. Je suis court, hein. C'est que le péché, Jean chapitre 3, a altéré notre vision de qui est Dieu. Par exemple, c'est surprenant. Comme je disais dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel garda et cultiva l'homme. Et Genèse chapitre 3, verset 10, j'ai eu peur. Waouh! C'est pas la même vision. Le péché, ce que ça fait en nous, oui, c'est vrai, ça a amené la honte, la culpabilité, condamnation, tout ce qui va avec. Mais le péché, je pense qu'une des choses, c'est nous a rendu aveugles de qui est Dieu. Comment Dieu nous voit? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Pourquoi je suis sur cette terre? Ça nous a complètement enlevé l'objectif. Et comme je disais tout à l'heure, sans objectif, on va tourner en rond dans notre vie. Sans objectif, on peut même se dire, mais ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie sur cette terre? C'est le péché qui nous a rendus aveugles. Non seulement il nous a rendus aveugles, mais il nous enseigne aussi le contraire de ce que Dieu a pour nous. Prenons un exemple. Genèse chapitre 2, 15. Le Seigneur me gardait. Il m'aimait. Il était avec moi. Il venait chaque jour dans le jardin. Je parlais avec lui cœur à cœur. Il connaissait déjà mon cœur. J'étais nu, oui, c'est vrai, mais je n'avais pas honte. Je savais qui était mon Dieu. Genèse chapitre 3. Je me cache parce que j'ai eu peur. J'ai honte. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est le serpent. Etc., etc. Faisons la tour de Babel pour ne pas disparaître sous cette terre-là, pour être un Dieu. Le diable, quand il dit dans Genèse chapitre 3, verset 1, l'Éternel a réellement dit, le péché, ça nous a rendus aveugles. Et le problème aujourd'hui, c'est que le péché nous rend aveugles dans nos relations, dans nos amitiés, dans le job, dans la famille, dans qui nous sommes et ce que nous avons tout autour de nous. Et c'est pour ça que, par exemple, pour vous donner quand même un exemple de qu'est-ce que le péché fait, une des choses que le péché a fait, c'est la peur. J'ai eu peur. Et c'est terrible comme sentiment. Le sentiment de la peur, tout le monde l'a. Nous, en tant que chrétiens, on l'a aussi. Mais sauf que je reviendrai après sur le troisième point. Mais le péché, ça a amené la peur. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui n'avance pas. C'est quelqu'un qui veut rester, qui stagne parce qu'il n'a pas envie ou parce qu'il a peur tout simplement. Par exemple, si je prends le roi Saül, il a eu un appel fabuleux, le premier roi d'Israël. Mais la peur, c'était sa devise. Ah, j'ai peur des Philistins. Ah, j'ai peur que le peuple me rejette. Ah, j'ai peur que le Seigneur ne me parle pas. Et la peur, ça l'a conduit dans le péché le plus profond. Par exemple, juste avant de mourir la veille, il va voir exactement ce que Dieu interdit. Il va voir une voyante pour que Samuel puisse lui parler. Quel péché! Quand le peuple se dispersa parce que Samuel y tardait, il dit, oh, j'ai fait un sacrifice. Alors qu'il était benjamite, il n'avait pas le droit. C'était que les Lévites. Désobéissance encore une fois. Lorsque les Philistins sont venus pour attaquer, on voit ça avec 1 Samuel chapitre 17, ils font quoi? Ils se cachent dans les cavernes. Dieu nous appelle à être la tête. Dieu nous appelle à être des combattants. Ephésiens chapitre 6, c'est, il nous a donné des armes, bon sang, pour combattre. Mais si notre vision, elle est aveuglée, ça laisse la peur à la place. Ça laisse place à la peur, c'est plus juste ça. Et résultat de course, c'est que tout le peuple d'Israël avait peur parce qu'il y avait un géant qui embêtait Israël, qui insultait Dieu. Un géant qui, voilà, Nous avons tous des géants dans notre vie qui veulent nous décourager. Mais David, on connaît bien cette histoire. Donc David, il avait une autre vision. Il a la vision sur celui qui le garde. Qu'est-ce qu'il dit à Saül? L'Éternel qui m'a gardé de la patte de l'ours et de lion me gardera de ce gars-là. Vous, vous avez peut-être la pétoche. Vous avez peur. Parce que vous avez oublié l'objectif. Vous avez oublié que c'est Dieu qui vous garde. Moi, je n'ai pas oublié. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Et parce que je l'ai expérimenté dans la vie, ça, c'est qu'un obstacle de plus. Le péché nous a rendu peur. Et le péché fait que, voilà, nous avons perdu la vision de Dieu. C'est comme ça. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, c'est une réalité que Dieu le dit. Point. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit on reste dans notre coin, comme Saül et c'est Israël qui se cache dans des grottes. Soit je dis, non Seigneur, tu m'as gardé, tu me garderas. Ça s'appelle le pas de foi, n'est-ce pas? Une autre vision. L'objectif. L'objectif de David, c'était de vivre avec son Dieu. Oui, il a vécu, il n'y avait personne avec ses moutons, si ce n'est que l'Éternel. Cet obstacle-là, c'est rien de plus que le même obstacle que j'ai vécu dans le passé. C'est aussi simple que ça. Vous vous rappelez dans 2 Rois, alors, tac, 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 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Pour vous remettre dans le contexte, il y a l'armée des Syriens qui menaçait Israël, forcément. Hein. Le roi d'Israël ne suivait pas le Seigneur. Ça, c'est malheureusement. Et là, tout d'un coup, il y a l'armée des Syriens qui vient envahir Israël. Et là, tu as Élisée et son serviteur. Son serviteur, il dit, ah, il panique. Il voit la multitude des chars, la multitude de l'armée. Et Élisée, t'as pas un café? Moi, je suis tranquille. Et je m'imagine ce serviteur, mais Élisée, mon Seigneur, tu vois pas là, il vient nous attaquer, et puis nous, on reste plantés ici. Et en plus, on n'a même pas l'armée qui est là. Et j'ai dit, mais garde ton regard sur Dieu. Seigneur, ouvre les yeux, qu'il puisse voir. Vous pensez que le cœur de ce serviteur était pareil? Parce qu'il disait, ah oui, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et nous, parfois, dans notre combat, on se sent seul. Dans notre famille, peut-être, on se sent seul. Dans notre boulot, peut-être, je dis, mais Seigneur, je suis le seul chrétien. Élie, qui a eu cette fameuse victoire au Mont Carmel, il se sentit comme seul. Parce que sa vision était altérée. Il a oublié de regarder à celui qui le garde. Et ça l'a conduit en dépression. Et Dieu lui dit, mais mon coco, excuse-moi, tu n'es pas seul. Premièrement, c'est pas juste toi que je compte. C'est pas juste toi que je veux garder. Moi, je veux que toute l'humanité puisse être concernée. J'ai gardé un petit reste. Des prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ce serviteur d'Élisée, je pense qu'après, il était vraiment rassuré de se dire, puisque Dieu est avec moi, qui peut se tenir devant moi? David, il disait même très bien, Seigneur, avec toi, seul, juste nous deux, Seigneur, toi et moi. Je saute sur le muraille en face de mes ennemis. Peut-être que les autres dans la ville ont la pétoche. Moi, je sais que tu vas me garder, Seigneur. Et j'aime cette expression. On voit ça avec, comment il s'appelle? Esdras. La bonne main de l'Éternel était avec nous. Cette expression, c'est exactement la même racine que Natsar. Ça veut dire, Dieu m'a gardé. Tu veux me faire du mal? Il y a un plus grand. Il y a un plus grand. Tu veux essayer de me décourager l'ennemi? J'ai même pas besoin de me concentrer sur toi. Je me concentre sur Jésus-Christ en qui j'ai placé ma foi, qui t'a déjà vaincu. Tu le sais, mais tu veux me dire des mensonges en disant tu es un perdant. Donc lorsque nous gardons notre regard sur Christ, nous pouvons garder les choses. Par exemple, s'il y a une amitié, il y a quelque chose de compliqué à aller dans une amitié, la vision c'est Seigneur, tu peux restaurer ça. Naturellement, je l'ignore. Peut-être que j'ai blessé quelqu'un. Peut-être que je l'ai snobé, comme on dit aujourd'hui. Mais Seigneur, la vision, c'est que toi, tu es concerné aussi par son cœur. Toi, Seigneur, tu es concerné par cette relation qui a été brisée. Toi, Seigneur, tu es celui qui me garde et qui peut le faire. Dieu, quand il dit des choses, c'est pas juste des mots en l'air. Quand il dit, il le fait parce qu'il peut le faire. Y compris garder nos relations entre nous. Robert disait au début de Christ, le faire aiguise le faire. Aïe, des fois dans l'église, dans nos familles, ça met des tensions. Mais Seigneur, je veux garder les yeux sur toi, parce que c'est toi qui vas restaurer ce qui a été brisé. C'est toi qui vas me donner la bonne vision, que tu me gardes, que tu me protèges, que tu me conserves, que tu me préserves, parce que je suis précieux à tes yeux. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quand Pierre ironie le Seigneur Jésus-Christ 3 fois? J'aime ça, c'est Luc qui nous parle. Alors, si j'arrive à le trouver. Luc chapitre 22, versets 61 et 62. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. Vous pensez vraiment que c'était un regard de condamnation? Vous pensez vraiment que Jésus dit, je te l'avais dit, hein? Nous, on a tendance à dire ça. Hein? Je te l'avais dit que tu vas désobéir. Ah? Je te l'avais dit que tu vas, je sais pas moi, peu importe les bêtises. Je te l'avais dit. Mais c'est pas le cœur de Christ. Le regard, je sais pas, la Bible n'en parle pas, mais le regard que le Seigneur avait sur Pierre, c'est un regard d'amour. Et c'est ça qui a bouleversé son cœur. Certains commentateurs, ils parlent que par exemple Job, il n'a pas été brisé, son cœur n'a pas été brisé par l'épreuve qu'il a eue en perdant tout ce qu'il a perdu. Mais par la conversation qu'il a eue avec le Seigneur. Une conversation douce qui traverse, qui transperce les cœurs de Pierre. Vous vous rappelez comme Élie qui disait, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le feu, mais dans une douce voix. Donc là, le regard que Jésus porta sur Pierre, c'était un regard de tendresse, d'amour. Et j'aime ce que Jésus disait. J'ai prié pour te garder. Oh, c'est fabuleux. Le Seigneur, quand il nous voit aujourd'hui, je prie, je te garde dans la main, dans ma main. Donc le deuxième point, le premier c'est le Seigneur nous garde. Le deuxième point c'est gardons les yeux sur celui qui peut me délivrer. Gardons les yeux sur Christ. Tu veux un sens à ta vie? Garde ton regard sur Christ. C'est aussi simple que ça. La Bible n'est pas compliquée. Et le troisième point que j'aimerais parler ce matin, c'est garder la parole. Garder la parole qui est Christ. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu, la parole. Non, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Garder la parole. Lorsque Israël sont sortis d'Égypte, Dieu a donné les commandements et c'est repris des centaines de fois. Garde la parole, garde les commandements, garde les commandements. Mais vous n'avez jamais posé la question, pourquoi garder les commandements? Comment Jésus a répondu à la tentation? Si tu ne gardes pas les commandements, c'est impossible. Jésus disait, désolé. Il est écrit, je garde les commandements de mon Père. C'est fabuleux. Nous, c'est pareil. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes, c'est juste. Mais nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous réconforte. Le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme gardera pur ses sentiers ou se préservera du mal en se dirigeant d'après ta parole? Si je ne garde pas la parole de Dieu, comment, lorsqu'il y a une situation compliquée qui arrive, comment je peux le faire? Tu veux une vision pour ta vie. Tu veux savoir ce que Dieu a, le plan extraordinaire que Dieu a pour ta vie. Ouvre la Bible. La garde pas dans un meuble. La garde pas dans une bibliothèque où tu veux dire, ah, c'est la Bible de mes parents. Ouvre la Bible. Tu t'imagines même pas, vous imaginez même pas, et même moi, je m'imagine pas ce que Dieu peut faire avec une personne qui garde la parole. Je vous ai dit, par exemple, il y a déjà des années en arrière que je parlais de ça. Le meilleur ami de Billy Graham, le grand prédicateur, ils ont commencé le même institut biblique. Ils ont commencé à prêcher. Mais Charles Templanson, je crois que c'est ça, il avait trop de questions. Et il s'est détourné un peu de la parole. Résultat de course, c'est qu'il a oublié la parole. Et Billy Graham, il dit, ok, j'ai peut-être des questions, j'ai peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, mais Seigneur, je garde mon regard centré sur toi. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on écoute les prédications de Billy Graham, elles sont super simples, mais elles sont efficaces parce que c'est un homme qui a gardé la parole. Nous, par exemple, dans l'islam, sans parler d'islam, les chrétiens et les juifs sont appelés les gens de livre. Si on ne garde pas la parole, pourquoi porter ce nom? La parole de Dieu nous révèle son cœur. La parole de Dieu nous révèle notre incapacité de garder les choses. La parole de Dieu nous révèle ses promesses. La parole de Dieu nous révèle qui nous sommes aujourd'hui. De Corinthiens 5, 17, une nouvelle créature. La parole de Dieu nous révèle que même si tes yeux voient le contraire, la foi... Garder la parole, c'est essentiel. L'homme n'y vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4, Luc 4, 4. Gardez la parole. Et vous vous rappelez la dernière chose que l'avant-dernière église dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, tu as peu de puissance, peut-être tu n'as pas de force, peut-être tu n'as même pas la capacité de garder les choses. Mais parce que tu as gardé ma parole. C'est génial. Je vais vous lire le verset exact. Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est fabuleux. Mais j'aime ça. Nous, on garde, Seigneur, peut-être que j'ai pas toute la connaissance de ça, de ta parole pleinement, mais je veux garder ce que j'ai reçu. Parce que lorsqu'on garde la parole, on garde notre regard centré sur Christ. Si on délaisse la parole, notre regard devient altéré. Et je vais finir avec une autre pensée, la dernière pensée. J'aime ça, c'est 2 Timothée chapitre 1, verset 14. 2 Timothée 1, 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Encore une fois, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Mais je vais quand même aller un peu plus loin. Le mot dépôt, excusez-moi du grec, il est un peu compliqué, c'est parakatekehe, qui signifie un double mot. Près de toi, garde près de toi. Et le deuxième, donc ça c'est para, et le deuxième c'est katatitemi, pour un usage futur. Je vais répéter encore une fois. Le mot garde le dépôt, le mot là compliqué que je dis, il est composé de deux mots. Le premier mot, c'est près de toi. Comme la parole de Dieu nous dit, garde la parole dans ton cœur, près de toi. Et le deuxième mot, c'est pour un usage futur. Je vais donner un exemple plus concret de ce que c'est garder. Parce que garder le dépôt, c'est pas juste théologiquement ce qu'on a appris, ce qu'on a étudié, mais c'est également l'expérience que nous avons avec le Seigneur au quotidien. Prenons un exemple. Vous traversez une situation compliquée, peu importe. Dieu dit dans sa parole, je suis fidèle, je te donne la victoire, je te donne des promesses qui sont oui et amen. Toi, tu le gardes dans ton cœur et tu expérimentes que le Seigneur a été fidèle. Donc, ça fait un dépôt dans ton cœur. Et là, tu as une autre situation, peut-être différente, qui arrive et qui te demande la même chose. La fidélité de Dieu. Tu as une facture qui arrive, tu n'as pas d'argent, tu as peu importe. Et là, tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Rappelle-toi dans ton cœur, pour l'usage futur, que tu as déjà expérimenté ma fidélité. Donc, parce que tu as déjà expérimenté ma fidélité, ça va te donner de force, de courage en disant, oui, Seigneur, est fidèle. Prenons un autre exemple. Il y a une situation, un domaine, où vous avez besoin d'expérimenter le pardon. Seigneur, par exemple, je sais pas moi, ça m'a jamais arrivé, j'espère que ça m'a jamais arrivé. Imaginons quelqu'un qui a un accident de voiture qui tue une personne. Ça peut arriver. Même en tant que chrétien. Waouh, Seigneur. Ok, je peux demander pardon à la famille parce que j'ai ôté une vie. Mais comment puis-je me pardonner moi-même? J'ai vraiment besoin de toi. Et le Seigneur restaure ton cœur. Le Seigneur travaille ton cœur. Que tu réalises, peut-être que jamais tu l'oublieras. Mais dans ton cœur, tu sais que tu es pardonné. Dans ton cœur, il n'y a plus de culpabilité. Et là, il y a une autre situation qui arrive. Sauf que cette fois-ci, c'est une personne qui te blesse. Par exemple, si on prend le même exemple avec la voiture, quelqu'un t'écrase, je veux dire comme ça, t'as une jambe cassée. Tu peux plus marcher. Tu es peut-être sur un fauteuil roulant. Seigneur, comment je peux pardonner? C'est pas possible. Il m'a ôté une partie de moi. Tu te rappelles, près de toi, pour un usage futur, ce que tu as reçu? J'ai travaillé ton cœur pour le pardon. Laisse-moi le faire aussi maintenant. Oui, tu as peut-être une jambe au moins, mais laisse-moi travailler ton cœur aussi. Parce que le dépôt, c'est prêt pour un usage futur. Je sais, j'ai pris des extrêmes, mais c'est intéressant de voir comment Dieu fait. Ce que nous pouvons expérimenter aujourd'hui avec le Seigneur, ça crée un dépôt en moi. Et ça va me servir dans le futur. Et c'est pour ça que, par exemple, lorsque vous voyez, j'ai déjà vu ça des vidéos, au tribunal, les parents vont voir ceux qui ont tué leur fils et disent, je te pardonne. Je te pardonne parce que le Seigneur m'a pardonné. Je te pardonne parce que le Seigneur me donne la force. Parce que le Seigneur me garde pour te pardonner. Naturellement, je t'aurais tué. Œil pour œil, dent pour dent. Mais celui qui me garde, celui qui me préserve, celui qui me conduit, celui qui m'aime, celui qui, voilà, il est avec moi. C'est lui qui me donne la force pour tout pardonner. Je sais, ce sont des choses extrêmes, mais on peut le prendre dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, quel est le plan pour ma vie, Seigneur? Je suis chrétien, j'entends parler de toi, peut-être depuis gamin. Et le Seigneur va dire, premièrement, ouvre la parole. Parce que lorsque tu ouvres la parole, tu as le regard centré sur moi. Et parce que tu as le regard centré sur moi, tu vas réaliser que c'est moi qui te codouille au fur et à mesure. C'est fabuleux, hein? Mais voilà, les trois points. Lui, il nous garde. Gardons la vision, deuxième point, sur Christ. Et le troisième, c'est gardons sa parole. Et les trois sont liés parce que garder sa parole, c'est garder son regard sur Christ. C'est garder, Seigneur, c'est toi qui le fais. Et c'est pour ça que quand on parle, garde ton cœur par-dessus tout, car de là viennent les sources de la vie. Seigneur, ok, je veux persévérer dans la vie chrétienne. Seigneur, tu me dis de briller là où tu m'as placé. Je ne peux pas naturellement. Et le Seigneur va-t-il dire, tant mieux, laisse-moi le faire à travers toi, parce que je te garde, parce que pour moi, tu es précieux, parce que pour moi, tu es comme la prunelle de mes yeux. Alors, la prunelle de mes yeux, au cas où, hein, vous savez que j'ai fait pas mal d'opérations, c'est la partie la plus sensible de l'œil. En fait, quand vous avez une petite poussière, c'est ce qui vous fait pleurer. Voilà ce que nous sommes pour Dieu. Tellement précieux. Et des fois, aujourd'hui, par exemple, on peut se dire, mais Seigneur, mais oui, ok, le message, il est bien, mais peut-être que je suis découragé parce que j'ai ma vision qui est altérée. Comment je peux revenir à toi? Premièrement, alors j'ai mis un autocollant qui est drôle. C'est marqué « Danger, ce livre peut vous rendre heureux ». Premièrement, Seigneur, pour enlever cette poussière dans mes yeux, ce qui est altéré, donne-moi même la capacité d'ouvrir la parole. Donne-moi la capacité de la serrer au fond de mon cœur. Parce que c'est cette parole, psaume 119, verset 105, « Ta parole est-il longue par mes pieds ?» Bon, si vous voulez un peu de la modernité, c'est pas grave, je vous le fais. Hein. Là, j'ai une lumière. Et ça vous a tous arrivé en pleine nuit de faire comme ça. Oh, un caillou. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu nous donne la vision sur qui il est. Sur les plans merveilleux qu'il a pour nous. Sur son amour agapéo. Sur les relations. La parole de Dieu donne la réponse. Et lorsque nous finissons notre vie sur cette terre, on peut dire comme Paul, j'ai fini cette course avec joie, parce que tu m'as gardé. Là, je suis en plein livre de chroniques, et j'aime ça parce que il y a cette expression qui dit, l'Éternel le garda où qu'il allait. Là, ça parlait de David. Il y a un combat là-bas, Seigneur, j'y vais, parce que je sais que tu me gardes. Gardé. C'est pas une doctrine, mais c'est tellement essentiel. On veut garder notre vie, malheureusement on va la perdre. On perd notre vie pour le Seigneur, ben en fait on va la gagner parce que c'est lui qui nous garde. Plus on s'accroche, il y a même des relations qui sont tellement néfastes. Et nous on s'accroche parce qu'on n'a pas envie de les perdre. En disant non Seigneur, je suis déstabilisé. Seigneur, cette relation-là, j'ai besoin. Et le Seigneur dit, éloigne-toi juste un peu et concentre-toi. Laisse-moi te montrer qu'est-ce que c'est une véritable amitié. Laisse-moi te montrer qu'est-ce que c'est regarder vers le haut et jamais vers le bas. Laisse-moi te relever parce que c'est ça qui compte. S'accrocher à des relations qui sont néfastes, je vous garantis que vous finissez mal, sans donner de détails. Tu veux une bonne relation. On veut, je me mets là-dedans. Gardons ce que nous avons reçu ce matin, prêt pour un usage futur. Gardez le bon des bons. Quand Paul a écrit ça à Timothée, il était pas très loin de perdre sa tête, si je peux dire comme ça, de mourir. Mais il a dit le plus essentiel. Ce que tu as reçu, garde-le. Peut-être que tout au long de votre vie, de notre vie, en étant petit, nous avons entendu à l'école dimanche. Peut-être que nous avons l'habitude avec les conférences, les cours, tout ça, gardons le bon des bons, prêt pour un usage futur. C'est fabuleux. Et Habacuc, je me souviens plus de la référence, qui nous dit, si la promesse est tarde, attends-la. Attends-la. Et c'est possible d'attendre parce que nous gardons notre regard sur Christ. Et une dernière chose. Vous vous rappelez cette femme, je ne sais plus le passage, où les pharisiens l'amènent vers Jésus. Ils disent, Seigneur, elle mérite d'être lapidée. Et le Seigneur la regarda avec tendresse. Il dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Et puis il dit quoi, le Seigneur? Où sont ceux qui t'ont condamné? il n'y a plus personne, Seigneur. Va, moi non plus. On ne sait pas ce que cette femme elle est devenue par la suite. J'aurais été curieux de savoir qu'est-ce que Pilate il est devenu par la suite. Qu'est-ce que d'autres personnes. Le centurion romain, quand il dit dans « Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri », on ne sait pas, mais on s'est surpris au ciel. Il dit « Ah, toi aussi le Seigneur t'a gardé ?» Ben oui. Mais voilà, il nous garde, gardons les yeux fixés sur lui et gardons la parole. Amen.